Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonjour à... Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez beaucoup mieux maintenant qu'on a... qu'on devrait pas tarder à voir un ministre de l'environnement et de l'écologie. Non, ça vous a pas choqué, vous pensiez peut-être qu'on pouvait faire sans. Bon, ceci étant, c'est quand même la première fois que depuis 53 ans, il nous manque un ministre de l'écologie pendant au moins 10 semaines. Donc bon, mais c'est pas comme s'il y avait des dossiers écologiques d'urgence hein, à traiter. Bon, d'ailleurs cette semaine, justement avant de rentrer dans notre rétrospective 2024 et dont nous parlerons nos invités du jour, on va ouvrir par une page d'actualité. Alors, actualité sur différents thèmes. C'est Ben qui va nous expliquer tout ça.
La première actualité, c'est Paul Watson, le fameux grand chef de Sea Shepherd, et qui s'est retrouvé quand même pendant plusieurs mois au Groenland.
150 jours presque.
Une colonie danoise. Que d'ailleurs Trump, le fameux, a voulu racheter à un moment donné. Il y a eu une volonté, parce que quand même le Groenland, c'est intéressant, pas seulement pour sa superficie, mais surtout pour ses richesses de tout ce qui est minerai. Et il a demandé l'asile politique à la France.
Pas Trump,
mais notre ami Paul Watson. Et donc, on va voir si ce militant écologiste, qui est quand même l'un des grands militants écologistes, s'il va pouvoir bénéficier de ce statut. Pour l'instant, il n'en est rien. Il n'y a pas eu encore de réponse à une lettre qui a été envoyée en octobre. Donc, c'est quelque chose que nous allons suivre. Ça fait partie de l'actu.
Alors, t'avais peut-être une deuxième actu.
Ah, j'en ai plein d'autres, parce que nous arrivons à la fin de l'année, et donc, en ce moment, il y a une sorte de... Oui, un rituel de distribution des prix, notamment des grands écologistes qui reçoivent plus ou moins une palme d'or. Ce sont les champions de la Terre. Et parmi les champions de la Terre, il y en a une que vous connaissez peut-être, et qui est la ministre brésilienne des peuples autochtones. Non, ça ne vous dit rien ?
Si, ça me dit beaucoup de choses, Ben, mais tu m'avais promis d'en parler là dans la semaine prochaine.
Ah ben, c'est pas un problème, je suis prêt à le faire deux fois.
D'accord. Donc ce soir, je croyais que tu voulais nous parler de la journée de l'immigration, puisque c'est aujourd'hui.
Ah, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est le 18 décembre, d'ailleurs chaque année. Depuis l'an 2000-2001, que c'est la journée mondiale des migrations. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retient. À l'époque, il y avait juste une organisation internationale des migrations, l'OIM à Genève, qui s'occupait de pas grand-chose et qui était notamment responsable de tout ce qui était la capacité qu'avaient certains États, notamment en Amérique latine, de pouvoir se recycler. Mais c'est important quand même d'en parler, parce que toi, tu vas probablement aborder, François, quelque chose à Mayotte qui a aussi à voir avec des enjeux de migration.
Effectivement, c'est pour ça que ces derniers mois, on parlait de Mayotte, mais bon, là, c'est surtout à cause du cyclone Chindo, qui a ravagé l'île samedi dernier. Donc, tout le monde sait maintenant les dégâts que ça a pu provoquer. Ce qu'on sait moins, c'est la...
Oui, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
Oui, on ne sait pas. On ne sait toujours pas combien de morts il y a, mais ça, à la limite, on peut le reprocher à personne. Ce dont on pourrait aussi parler, ça va être de la nécessité de pouvoir assurer la reconstruction de Mayotte. Et notre Premier ministre, puisqu'on en a un maintenant,
oui,
c'est vrai, il est là, quoi. Alors bon, c'est vrai qu'il est fait un peu fâché, semble-t-il, avec les visioconférences. Bon, je ne veux pas lui jeter la pierre, moi j'aime pas trop ça non plus. Mais bon, moi je prends pas mon jet privé pour aller faire des réunions. Mais il a néanmoins annoncé lors du conseil municipal de Pau qu'il fallait que les communes françaises et les collectivités territoriales assurent la solidarité avec Mayotte. Et Pau donc vient de donner au conseil général de Mayotte, au département pour faire clair, 25 000 euros. Mais écoutez, là, j'ai fait le tour un petit peu des grandes associations territoriales aujourd'hui pour savoir ce qui se passait. L'AMF, donc les maires de France, l'association des départements et puis l'association des régions. Ils m'ont promis qu'ils étaient en train de plancher sur le sujet. Ils devaient nous donner des informations pour ce soir. Eh bien, nous les attendons toujours. Par contre, écoutez, on a tout de même une grande chance. On a David Pierre qui est venu, donc David Pierre qui est membre de Cités Unies France, qui donc c'est entre guillemets le métier ou la fonction que d'assurer la solidarité entre les villes du monde, les territoires du monde. Et là, d'habitude, vous le faites à l'international, mais bon, Mayotte est française. Maintenant que le Premier ministre le sait, on va pouvoir ouvrir le... Le débat. Vas-y, David Pierre, je te laisse la parole. Alors, qu'est-ce que vous préparez ?
Alors, ben merci beaucoup déjà de me permettre d'être là aujourd'hui. Et en effet, en tant que agent de l'association Cités Unies France, qui, pour rappel, travaille sur cette solidarité entre territoires internationaux, de coopération portée par les villes et territoires, je suis là dans une situation particulière, mais je profite de ce micro que vous me tendez pour quand même en parler. On est bien sur un territoire français, on n'est pas sur une approche de notre point de vue de solidarité internationale. Par contre, Mayotte est une collectivité, le département de Mayotte est une collectivité membre de Cités Unies France, très active, la ville de Mamoudzou également. On sait que parmi nos membres, ce sont des collectivités qui justement font en général preuve de beaucoup de solidarité. La ville de Mamoudzou avait gagné un label qu'on a créé de territoire uni et solidaire. Ils avaient gagné en 2023 ce label du fait de leur participation à des fonds de solidarité. Donc ces élans de collectivité à collectivité, de territoire à territoire vers l'international, notamment vers Haïti, l'Ukraine, la Turquie, le Maroc, lorsqu'il y a besoin, c'est des élans qu'ont montré ces collectivités-là. Et aujourd'hui, bah, ils sont frappés par ce cyclone. Il est peut-être bon de rappeler que la situation avant même le cyclone était déjà assez terrible en termes de situation socio-économique, qu'il y avait une vulnérabilité contextuelle existante. Et du coup, ben, en élan de solidarité, nous, en tant que Cités Unies France, en tant que réseau de collectivités territoriales, on profite de toutes les audiences possibles pour relayer cet appel à solidarité, appel qui, en effet, a été déjà relayé, évoqué et répondu par beaucoup des homologues, en fait, du département de Mayotte, de la ville de Mamoudzou, de la ville de Dzaouzi, d'autres territoires. Avec ces élans de solidarité, on va beaucoup entendre parler des élans de solidarité, peut-être même de certains milliardaires, on entendra parler des élans de solidarité de certains gouvernements, etc. Je suis assez persuadé que celui des collectivités, merci d'ailleurs d'en parler aujourd'hui, passera un petit peu sous les radars, et pourtant, oui, les villes, les régions, alors à petite échelle parfois, et à moyenne échelle parfois, comme la ville de Pau, je sais que la ville d'Angers, la ville de Montpellier, la ville de Grenoble, ont aujourd'hui pris des décisions là-dessus, alors aujourd'hui ou hier, pour justement alors abonder à des actions, à des fonds de solidarité, notamment en passant par le secours populaire, par la protection civile, pour être sûr que ce soit bien organisé. La région Île-de-France a aussi, il me semble, voté 500 000 euros de soutien. La région Réunion a voté 1 million d'euros pour que, d'homologue à homologue, pour que de région, de territoire à territoire, cette solidarité, alors pour le coup nationale, puisqu'on est bien sur un territoire français, puisse s'exprimer, et s'exprime pas seulement au niveau des citoyens donc à échelle pays, mais aussi au niveau de collectivités territoriales.
Oui, donc on va avoir un engouement pour la solidarité d'urgence. On sait néanmoins que remettre Mayotte en état, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il va falloir aborder la question du temps long. Et là, c'est vrai que les solidarités entre territoires fonctionnent souvent mieux que les autres formes de solidarité. On a connu ça avec Haïti, où justement Cité Unie France avait coordonné beaucoup d'aides sur le long terme. Je crois qu'on va être à peu près dans le même schéma. C'est pour ça que... aux Arènes de l'écologie, on va déjà programmer une émission probablement en février pour voir quand, j'irai, le soufflet émotionnel et médiatique finira par retomber, comme à chaque fois. Eh bien, on fera une émission Mayotte sous les radars, 60 jours après Shindo, quoi. Donc voilà, on se permet d'annoncer la chose dès maintenant. Et puis, naturellement, on invitera Cités Unies France et puis toutes les collectivités locales qui auront participé et mis en place ce projet. Bon.
Mais on en est où, là, sur la... Est-ce qu'on a déjà des devis sur ce qui représente le gros du fardeau, c'est-à-dire la reconstruction? Parce qu'au fond, on est proche d'un... Je ne sais pas si on a ce concept de la ville faillite, ou des États faillites, ou des îles faillites.
Sachant qu'on est là sur un territoire français, sur un département français, absolument. Ce qui est très particulier, et avec je crois, plus d'un tiers de la population qui était dans des habitats terriblement précaires. Donc on parle de reconstruction, je crois qu'on peut vraiment parler aussi de construction qui avait besoin d'avoir lieu avant même. Ouais. On était sur un tiers de la population qui n'avait pas d'accès à de l'eau potable sur un territoire français, qui n'avait pas d'accès à l'eau courante, je veux dire, dans leur domicile.
Donc, et des bâtiments en tôle.
Voilà, et c'est évidemment cette vulnérabilité contextuelle qui était préexistante à ce cyclone, qui fait que maintenant, avec un cyclone qui passe pile sur Mayotte, ça engendre quelque chose de catastrophique. Il n'y a pas encore de chiffrage, ça va forcément prendre du temps, mais de toute façon, il y avait déjà des chiffres faramineux avant même que ce cyclone n'arrive, parce que c'est un territoire qui a d'énormes problèmes. Vous parliez de migration, bien sûr, il y a la question de l'accueil nécessaire, des liens avec les Comores, puisque Mayotte fait partie de cet archipel, qui doivent être traités, qui ne doivent pas être mis ni sous le tapis, ni traités uniquement du côté sécuritaire. Il y a des problématiques de l'ordre du droit humain qui s'y pose, et là-dedans, les territoires, justement, les collectivités territoriales ont ce rôle-là, ce service public de proximité, avec notamment les services de première nécessité, d'organisation des questions d'eau, d'éducation, etc. C'est les territoires qui les portent. Donc, en effet, ce sera intéressant d'ici 2 mois de voir comment les choses se projettent un petit peu plus. Et
On y verra plus clair. On va dire qu'il y aura ce phénomène de sédimentation, les tôles seront retombées, on pourra commencer effectivement à planifier et à construire, chose qu'on n'a pas fait depuis que Mayotte est française, c'est-à-dire depuis 2011, ce qui est relativement récent quand même. Hein. C'est un cas extrêmement particulier. Mais d'ailleurs, on peut se demander si parmi tous les moyens de développement et puis pour assurer le service, est-ce qu'il y a des infrastructures cyclistes? Parce que le vélo, au moins, ça ne demande pas de pétrole pour fonctionner. Ça permet d'assurer les relations assez efficacement. Et puis, ça me permet aussi de faire une transition pour notre prochaine invitée qui passera après la petite musique qui va bientôt venir. Et je vous présenterai Joël Riandet, qui est membre de MDB, qui veut dire mieux se déplacer à bicyclette. Et puis qui fête ses 50 ans. Alors c'est pas Joël qui fête ses 50 ans, c'est l'association, vous m'aurez bien compris, sinon j'aurais dit à Joël qu'il les faisait pas. Mais voilà, écoutez, il vous expliquera tout ça après la pause musicale. La Chica, notre chanteuse franco-vénézuélienne de Belleville, qui nous chantait Agua. Alors, bien écoutez, maintenant on va donner la parole à Joël Riandet de Mieux se déplacer à vélo et qui va nous dire, il va ouvrir notre série rétrospective 2024. Qu'est-ce que le MDB a retenu de 2024 ?
D'accord, merci François et merci Radio Alix pour cette invitation. Effectivement, 2024, déjà avant peut-être de parler de 2024, je voulais juste faire une petite transition effectivement pour parler de le vélo comme moyen de déplacement.
Résilient,
effectivement, lorsqu'on a des catastrophes comme à Mayotte, les routes sont souvent encombrées, voire abîmées, accéder à de l'essence, c'est quelque chose qui devient très compliqué. Et être autonome, être libre, c'est la première des raisons pour lesquelles on milite aujourd'hui dans cette association, hein. C'est parce qu'on a finalement ce désir de liberté et d'autonomie. Et c'est ce qui, quelque part, nous guide. Alors on est effectivement, on a 50 ans, on était mouvement de défense de la bicyclette au départ, hein, lorsqu'il avait fallu défendre face à l'arrivée de la voiture, de la toute puissante voiture dans les villes, et l'effacement de ces moyens de déplacement, musculaire, on va dire ça comme ça. Dans les années 2000, on s'est renommé effectivement mouvement Mieux se déplacer à bicyclette pour permettre l'arrivée de l'accompagnement de cette évolution. Alors, 2024, si je devais résumer quelque chose, au-delà du fait que on a maintenant doublé nos adhérents depuis la sortie du Covid, hein, MDB a près de 3000 adhérents aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est une structure qui commence à avoir une place importante en Île-de-France. Je dirais que c'est bien sûr deux événements marquants pour moi, hein, c'est bien entendu l'avènement du vélo comme moyen de transport, de plus en plus pratiqué par les familles, par les vélo-taffeurs, qui tombe sous finalement quelque chose qui devient quelque chose de relativement naturel, de relativement évident. Je crois aussi qu'il y a cette prise de conscience par rapport au changement climatique qui devient de plus en plus prégnant. Et donc, il y a une sorte de tension, qui se crée, bien entendu, par rapport à la place de la voiture. Et donc, 2024, c'est à la fois le développement du vélo, notamment à Paris, et en petite couronne, et en grande couronne. Hein. Moi, je viens de Colombes, et on a énormément de personnes qui se déplacent aujourd'hui à vélo en couronne, avec, bien sûr, les aménagements qui suivent plus ou moins rapidement, bien entendu, pas assez vite à notre goût, mais néanmoins avec des aménagements qui s'opèrent. Et donc c'est ça qui aujourd'hui marque cette année 2024. La deuxième chose qui va avec ce développement, c'est quelque part la contre-révolution, on pourrait dire ça comme ça, ou la résistance des véhicules motorisés et la violence qui l'accompagne. Et on ne peut pas ne pas, bien entendu, évoquer la mort de Paul Varry, hein, le 15 octobre dernier, tué par un automobiliste, hein, on pourrait dire assassiné, oui. Puisque effectivement, il s'agissait très probablement d'un acte volontaire. Ce qui a fait suite à ce drame, c'est finalement la parole qui s'est libérée, un peu une sorte de MeToo des cyclistes, hein, dans la violence motorisée, c'est comme ça qu'on la nomme, hein, c'est en particulier pour les femmes, hein, qui subissent énormément de pression et d'injures, hein, tout simplement dans leur quotidien. Et donc cette violence, elle est aujourd'hui insupportable, et elle va effectivement avec du fait que les vélos prennent de plus en plus de place, nécessairement la place de la voiture recule et devra reculer, et c'est le sens de l'histoire, me semble-t-il.
Mais il y a, semble-t-il aussi, des réactions anti-vélo de la part des automobilistes, dont je circule aussi à vélo. C'est bizarre. Le lendemain de l'élection de Trump, les 4x4 semblaient me frôler de plus près. Mais bon, c'est un délire de ma part ou si c'est une réalité. Effectivement, on voit monter des tensions. Ceci étant, on reproche aussi quelquefois des comportements de cyclistes assez... sauvage, entre guillemets, oui. pas très discipliné, et puis aussi une certaine violence. Je me suis moi-même fait agresser par une dame qui roulait plus vite que moi et puis mon collègue avec qui on parlait de front, naturellement, sur une piste cyclable le long du canal de l'Ourcq, et qui s'est permis tout bêtement de taper dans le dos de mon compagnon de route.
Tout à fait. Alors il faut déjà dans ces éléments de comparaison mesurer les différences de violence. On peut pas comparer une personne dans un SUV avec un cycliste ou un piéton. La cycliste ou le piéton sont des êtres vulnérables qui n'ont pas 2 tonnes d'acier autour d'elles. Et donc à partir de là, frôler avec une voiture un cycliste ou un piéton et a tenté à sa vie en réalité quelque chose d'évidemment beaucoup plus grave que d'autres violences. Pour autant, l'an dernier, nous avons mené, nous, une campagne MDB contre la violence, quelque part, pour le respect des piétons, c'est plutôt ça, en rappelant la priorité, l'ordre de priorité, c'est le piéton en prioritaire, le cycliste et les véhicules motorisés. Et on a mené une campagne qui s'appelait « Cycliste, roule pas comme un con ». Laisse passer les piétons, voilà. Et en plus, ils te souriront. Voilà, on avait dit ça. Parce qu'effectivement, un des avantages du vélo, c'est... moi, j'avais publié 5 conseils à mon amie Nadine qui voulait reprendre le vélo. C'est, en premier lieu, c'est mets tous tes sens. Le vélo, c'est tous les sens. Quoi. Et donc, il faut prendre son temps et mettre tous ses sens en éveil. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau. Et si on fait du vélo comme on fait de la voiture, effectivement, on va se comporter comme un automobiliste ou comme quelqu'un qui, en réalité, ne prend pas le plaisir qu'il devrait prendre avec son vélo, à savoir un plaisir qui est de prendre son temps et aussi de pouvoir échanger avec les autres. Parce que le vélo, ce que ça permet le vélo, c'est l'échange. C'est l'échange, et vous regardez un carrefour hollandais, c'est extraordinaire, c'est une sorte de chorégraphie, les vélos se croisent, il y a des centaines de vélos qui arrivent à se croiser, tout simplement parce que les Hollandais, à force de pratiquer le vélo dans une démarche relativement apaisée et permanente, ont réussi, dans ces communications permanentes, à finalement gérer un flux.
Comme un banc de poissons.
Un flux, exactement, un flux tout à fait... et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a une question d'infrastructure, puisqu'il faut que les infrastructures se développent. Vous voyez bien, on prend Sébastopol, première piste cyclable, qui traversait Paris Nord-Sud, super. Bon, aujourd'hui, en fait, il faudrait que tout Sébastopol soit réservé au vélo et qu'on ait une petite bande pour les taxis, un peu comme Rivoli. Et je pense d'ailleurs que ça va aller dans ce sens-là. On voit bien le besoin à ce niveau-là. Donc effectivement, clairement, je pourrais dire que sur cette question-là, donc moi j'anime une vélo-école à Colombes, et puis on est très fiers cette année, on a près de 600 élèves qui ont été formés dans nos vélo-écoles de MDB en Ile-de-France. Donc on forme les personnes, et d'ailleurs souvent des personnes d'ailleurs issues d'Afrique ou des femmes, hein, essentiellement des femmes, hein, ou des Antilles. Et on leur apprend, bien sûr, à faire du vélo, à pédaler, à pédaler, parce qu'elles ne savent pas, pour la plupart, pédaler. Mais on leur apprend aussi à rouler dans des rues piétonnes. C'est-à-dire qu'on leur apprend la priorité, la façon de se comporter, la façon de se positionner, et la façon de respecter également les piétons. Et je pense qu'effectivement... Le cycliste et le vélo, en tout cas une culture du respect du piéton à acquérir bien largement et à faire respecter les uns vis-à-vis des autres.
Alors, c'est vrai qu'on a longtemps eu une culture sportive du vélo, ça a d'ailleurs même été ma culture initiale de cycliste, et quand j'étais à Paris jeune étudiant, j'adorais faire des queues de poisson en voiture. Bon, c'est vrai que c'était pas un comportement très civique. Bon, on était très peu à l'époque, hein. Ça remonte à avant le déluge. Hein. Mais ceci étant, y a tout un comportement à développer, puis surtout à en parler. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des politiques... urbaine, que les architectes pensent vélo. Donc, quand on dit vélo, d'ailleurs, c'est aussi toute autre mobilité. Alors, c'est vrai que les trottinettes sont venues mettre un peu le bazar dans nos schémas, mais...
Il y a un élément symptomatique qui est le feu de signalisation, le feu rouge. Si vous considérez un cycliste et la façon dont le cycliste va se comporter vis-à-vis des feux rouges, vous remarquerez qu'en France et à Paris en particulièrement, les cyclistes ne respectent pas les feux. Alors, est-ce que les cyclistes sont tous des délinquants, ou est-ce que les feux ne sont pas adaptés au déplacement à vélo? C'est une question. Parce qu'en réalité, on pourrait tout à fait considérer que le cycliste est un piéton à vélo. Et non pas un automobiliste à vélo, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans la démarche d'un automobiliste et d'un piéton et d'un cycliste, la mise en sécurité est bien entendu la priorité. Et quelque part, lorsqu'on est dans un carrefour, on a tous expérimenté un démarrage avec un camion au moment où le feu passe au vert et le danger dans lequel on ressent ce moment où finalement on part avec un flux de véhicules motorisés. La désynchronisation du cycliste avec le feu, quelque part, est une forme de mise en sécurité qui d'ailleurs est préconisée par la CEREMA, hein, qui produit effectivement aujourd'hui...
CEREMA, donc c'est l'agence...
C'est l'agence qui fait des préconisations sur les aménagements, notamment les aménagements routiers, par rapport à des études qu'ils réalisent, hein, sur ces sujets-là, et où il y a des vidéos et des préconisations par rapport au CD de passage cycliste. Vous savez qu'aujourd'hui, il est possible, sous réserve que les maires le décident, d'installer des petits panneaux CD de passage cycliste sur les feux. Ça veut bien dire qu'on a compris que, quelque part, le cycliste, sous réserve qu'il respecte le piéton, sous réserve qu'il respecte la priorité des véhicules, mais il peut s'engager sur un carrefour pour sa propre sécurité, s'il a la visibilité suffisante, de manière à éviter de partir et d'être, je dirais, dans le flux de véhicules motorisés. Quelque part, cette législation, qui aujourd'hui est une possibilité offerte par les maires de mettre en place sur leur commune ce type de choses, quand on est cycliste, vous voyez, on est à Nanterre, il y en a, à Colombes, il n'y en a pas encore, à Courbevoie, il y en a, mais finalement, c'est quoi la logique ? Et la logique, c'est que finalement, on prend l'habitude et on prend, je dirais, la façon de procéder qui est je procède ainsi, de toujours respecter les piétons, toujours respecter les véhicules
qui ont la priorité. Oui, mais ça, c'est une
question de bon sens. Donc, ça veut dire que je ne passe pas, on ne grille pas un feu à fond les ballons, bien sûr, on ralentit, etc. Mais, effectivement, on peut, en tout cas, la législation devrait évoluer dans ce sens-là. Il faudrait que ce soit l'inversion, c'est-à-dire qu'on interdise certains carrefours dangereux avec des interdictions de passer, et que sinon, les feux de signalisation soient effectivement des cédés de passage pour les vélos.
Alors, à votre avis, ça va prendre combien de temps de créer cette culture vélo chez les Gaulois parisiens ?
Écoutez, déjà, vous savez, il y a la mission interministérielle contre les violences motorisées, enfin, les violences routières, là, qui a été créée suite au meurtre de Paul Varry, donc qui va donner des préconisations déjà. Sur l'été. Alors nous, on travaille dans deux dimensions, hein, la dimension les comportements, comment on fait pour travailler les comportements, alors des cyclistes, des motos, des automobilistes, hein, comment on travaille la culture et la vision qu'ont chacun les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, on pourrait avoir, dans le cadre du permis voiture, une obligation de passer faire une heure de vélo ou un cours sur le vélo, ou se mettre à la place d'un vélo, d'une manière ou d'une autre, parce que tous les automobilistes ne savent pas forcément pédaler d'ailleurs. Mais bon, ça pourrait être aussi cette idée, comme pour les chauffeurs de bus, avec la RATP, on fait des vies ma vie, on met des chauffeurs de bus à vélo et pour qu'ils se ressentent réellement ce qu'est un cycliste lorsqu'un bus s'approche. Donc il y a cette dimension, on va dire, bien entendu, d'accompagnement et de transformation des mentalités et de formation. Et puis il y a la dimension aménagement également, bien sûr, à laquelle on n'échappera pas.
Ceci étant, c'est vrai qu'on est tous impatients de voir les choses évoluer. Moi, j'ai été 30 ans sans revenir faire du vélo à Paris. Quand la première fois, je suis revenu à vélo à Paris, il a fallu que je m'habitue à me faire doubler, parce que ce n'était pas mon cas avant. Mais passer, je dirais, cette petite frustration sportive, c'était un bonheur inouï. La rue de Rivoli à vélo, mais c'était un bonheur incroyable.
Quand on a l'habitude de prendre le métro, j'ai envie de dire... l'avantage du vélo, c'est qu'on voit Paris. On vit dans l'une des plus belles villes du monde, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas en profiter au quotidien.
J'ai l'impression que ceux qui font du vélo ne vont pas du tout faire du vélo pour en profiter. L'argument clé qui est utilisé par tous les cyclistes que je connais, et je suis cycliste depuis 40 ans, c'est la vitesse. C'est des gens qui d'ailleurs se comportent avec une violence. Quand ils vous crachent dessus, quand ils vous dépassent, je veux dire, c'est quand même pas... Ils n'ont pas besoin d'avoir une Alfa Romeo pour être dans la violence.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il y a des cyclistes qui se comportent aussi cons que des automobilistes.
Je trouve que vraiment, ils se valent. Et si vous regardez la différence avec les Néerlandais, Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la même culture.
Il était de quelle nationalité, le gentil monsieur qui, l'autre fois, t'a un petit peu choqué?
Non, mais bon, on va pas parler des problèmes perso. Mais c'est vrai que moi, je ressens... Alors, je suis désolé de contredire la vision, la vision un peu idyllique selon laquelle il y aurait d'une part des pauvres cyclistes qui seraient violentés par ces méchantes voitures. Dans la vraie vie, à Paris, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, mais bon, ça, de
donc
toute manière...
quand même tout petit peu rectifié.
Oui, des abrutis, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les mobilités. Mais ça non, reste quand même une minorité. Il faut quand même regarder que les comportements, on va dire, déviants ou agressifs, restent extrêmement minoritaires.
Là où vous avez raison, c'est que souvent, c'est quand même le moyen le plus rapide.
Oui, aussi. Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on roule comme un fou. Moi, j'ai envie de dire, le vélo, si je peux faire un plaidoyer par rapport à ça, c'est le moyen le plus fiable d'arriver à l'heure. Vous êtes sûr, vous connaissez votre trajet, et c'est pour ça que je dis, prends ton temps.
De toute façon,
ton temps, il sera toujours le même. Donc, si tu fais en sorte de prendre le temps qu'il faut, et de toute façon, tu mettras moins de temps que prendre le métro, bon, sauf si vraiment, on fait un, je sais pas, Marne-la-Vallée, la Défense, bon, là, le RER, il n'y aura pas photo. Mais clairement, au sein de Paris, intramuros, il y aura évidemment, et même avec l'approche banlieue, des grandes facilités. Moi, qui habite Colombes, j'étais à Châtelet en 30 minutes. J'avais un quart d'heure de vélo pour aller à la Défense, puis un petit quart d'heure de RER. Voilà, donc c'est un moyen formidable effectivement d'aller plus vite, sans pour autant rouler comme un fou.
Mais vélo, ça veut dire vitesse, hein, mais bon, ça c'est une blague, mais bon.
Moi, c'est pour regarder le paysage.
Oui, puis regarder les passantes aussi, non?
Pas du tout.
Bon, ok, bah, ça tombe bien, parce que maintenant, on va changer de sujet. Merci beaucoup, Joël.
Merci à vous, ouais.
Et puis, bah, ce sera un grand plaisir, hein, vous revenez quand vous voulez. Donc maintenant, ça va être le tour à Valérie qui est connue sur Radio Aligre maintenant, puisque dans les arènes de l'écologie, c'était notre première invitée. Valérie qui est journaliste, qui dirige le site internet d'information sur le climat qui s'appelle l'usine AGES, en gaz à effet de serre pour faire simple. Et puis qui là va nous parler du fait marquant de l'année 2024 depuis son point d'observation de l'usine AGES. Allez Valérie, ça à toi.
Alors je ne vais pas vous parler ni de la COP29, ni des émissions qui croissent, ni des consommations de charbon qui augmentent encore. Je vais vous parler d'un combat entre économistes et je vais essayer de le rendre le plus intelligible possible. En gros, chez les économistes du climat, parce que ça existe, il y a deux catégories, comme disait Clint Eastwood, les pro-William Nordhaus et les pro-Nicholas Stern. Alors, le premier a eu le prix Nobel d'économie en 2018, et en gros, sa théorie, c'est de dire que le changement climatique n'aura pas d'effet majeur sur l'économie mondiale, et que finalement, vaille que vaille, jusqu'à un réchauffement de 4 degrés, l'économie mondiale tiendra. Ce qui fait doucement rigoler un certain nombre de prospectivistes, mais bon. A contrario, Nicholas Stern, qui a été l'économiste en chef de l'Agence internationale de la Banque mondiale, et puis il a été aussi directeur du budget et des finances publiques du Trésor du Royaume-Uni, lui a fait un énorme bouquin sur l'économie du climat, je crois que c'était en 2006, 1000 pages sur le sujet, et dans lequel, en gros, on peut retenir deux choses. La première, c'est que si on ne consacre pas à minima l'équivalent d'1% du PIB ou national ou mondial, on s'expose à des coûts très importants, des coûts imputables aux effets des changements climatiques, que ce soit les inondations, que ce soit la montée du niveau de la mer, etc. Et ces coûts peuvent être évalués, en tout cas étaient évalués à l'époque, entre 5 et 20% du PIB. Donc si on ne consacre pas 1%, on claquera 5 ou 20%. Pour mémoire, le PIB de l'année précédente, c'était 176 763 milliards de dollars. Ce qui fait que si on consacre 5%, ça fait 9 000 milliards de dollars de dégâts. Si c'est 20%, c'est 36 000 milliards de dégâts. à comparer aux 2 800 milliards de PIB français.
Alors, si je suis le raisonnement, ça c'est la deuxième école de pensée.
Ça c'est la deuxième école.
C'est Stern.
Qui semble, en tout cas aux yeux des économistes consultés par le GIEC, la plus crédible. En tout cas, probablement la plus proche de ce qu'on connaîtra effectivement.
Plus crédible que la première école qui tente à dire...
Oui, parce que personne ne croit que l'économie mondiale fonctionnera sans problème avec un réchauffement de 4 degrés. Okay. Mais c'est quand même grâce à ça qu'il a eu le prix Nobel d'économie en 2018. C'est tout ça pour dire que, à mon avis, les académiciens Nobel n'ont que des notions très légères et de l'économie, en tout cas de la macroéconomie et des effets du changement climatique. Alors, ce qui est intéressant, si on va un petit peu plus dans l'actualité de 2014, puisqu'on est dans une émission rétrospective, c'est de voir ce que des économistes ont fait de tout ça. Et je pense à quatre économistes et statisticiens de l'INSEE qui se sont amusés il y a quelques semaines à essayer de modifier un petit peu les comptes de la nation en y intégrant précisément les coûts des changements climatiques. Alors, ils ont fait des tas de calculs rigolos. Je ne vais pas vous en faire le détail parce que ça nous mènerait probablement jusqu'à demain matin. En gros, il s'agit d'appréhender d'un même tenant l'activité économique, ses conséquences pour le dérèglement climatique et la répartition du revenu des ménages. En gros, combien le changement climatique va coûter à la collectivité française ou internationale ? Quels seront les effets sur notre économie, sur notre agriculture, sur notre système de santé et accessoirement sur le revenu de vous et de moi. Alors, on part déjà de nos émissions de gaz à effet de serre. Les émissions françaises, c'est autour de 400 millions de tonnes équivalent CO2. Si on intègre les émissions importées, là, ça monte à 600 millions de tonnes, etc. Donc, ils sont partis de cette base-là, ils ont fait une évaluation des coûts des changements climatiques. Alors là aussi, il y a beaucoup d'économistes qui ont phosphoré sur la question. En gros, on estime aujourd'hui en France que pour une tonne de gaz à effet de serre émis, ça va nous coûter grosso modo 90 euros la tonne. Voilà, c'est grosso modo la norme des économistes français aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Je vous passe les détails. Ce qu'ils ont, ils ont évalué plusieurs choses rigolotes. D'abord, c'est le coût de nos émissions pour la planète et la santé de tous les terriens. Voilà. Combien on coûte au monde ? Alors, on coûte au monde environ 30 milliards d'euros par an. Voilà, c'est grosso modo. Et c'est marrant parce que 30 milliards d'euros, c'est grosso modo les investissements supplémentaires qu'il faudrait que nous fassions pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050.
C'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. 30 millions pour 8 milliards.
30 milliards.
30 milliards pour.
Mais en plus de ce qu'on fait déjà.
Stern,
que là, on doit faire 60 milliards d'économies, si j'ai bien compris le projet de budget français. Donc si, c'est cher un peu quand même.
Il me semblait que Stern avait fait une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale.
Avec la Deuxième Guerre mondiale, alors ça c'est bien possible, mais je ne sais pas qui a gagné dans cet exercice. Alors, ils ont également, ces quatre économistes, ils ont également fait le coup pour l'économie française et la santé des Français. Et là, on tombe à peu près sur un chiffre équivalent, puisque leur montant est de 36 milliards d'euros par an. Donc le changement climatique coûte environ 36 milliards d'euros à l'économie, à l'agriculture, au système de santé français. Alors, là-dedans, il y a des tas de choses qu'on ne compte pas. On ne compte pas ce qu'il faudrait faire en adaptation. On ne compte pas un certain nombre de politiques qu'il faudrait mettre en œuvre, etc. Alors ça, ils sont allés, dans un deuxième temps, ils sont allés faire ça. Et en gros, ils ont calculé ce qu'on appelle le coût de la valeur d'action pour le climat. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sur la bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, ils en arrivent à un chiffre de 94 milliards d'euros, c'est-à-dire ce que ça nous coûte et ce qu'il faudrait qu'on investisse dans le futur pour y arriver. Si vous enlevez ces 94 milliards au produit intérieur brut français, vous arrivez finalement à une baisse du produit intérieur brut de 4% par an. Donc, ça parle à des gens qu'on connaît bien et qu'on n'aime pas forcément, c'est les agences de notation. Les agences de notation, vous le savez, elles notent la qualité de la dette des entreprises ou des États. Et selon la note qu'ils vont appliquer à cette dette, les investisseurs, que ce soit les fonds de pension, que ce soit les spéculateurs, etc., vont acheter ou pas acheter. Et s'ils achètent, ce ne sera pas toujours à des conditions favorables pour celui qui émet cette dette. Si on dit à ces investisseurs, bah finalement, le PIB français, c'est pas ça, mais c'est 4% de moins, voire 5% de moins si on intègre les coûts sanitaires, là, la qualité de la dette, elle devient franchement dégueulasse. Alors, le calcul qu'ont fait les statisticiens de l'INSEE, il devrait être fait pour tous les pays, en tout cas les principaux pays qui émettent de la dette, parce que ça donnerait une meilleure image, une image plus proche de la réalité des coûts directs et indirects que nos émissions ont sur notre économie, notre système de santé, etc. Et donc, on pourrait apprécier...
Ce que vous nous dites, Valérie, c'est qu'on parle souvent de la dette climatique ou la dette écologique. Aujourd'hui, on peut la chiffrer.
Aujourd'hui, on peut la chiffrer.
On sait combien ça coûte.
Absolument.
C'est ça la nouveauté de l'année, quoi.
C'est ça la nouveauté de l'année.
Dans le monde des économistes, que j'ai du mal à suivre, mais... je ne suis pas forcément tout seul, mais...
Donc la dette climatique, ça c'est le scoop de
2024. C'est le scoop, 2024. En tout cas, c'est le scoop français, ah bon. Parce que malheureusement, ce travail compliqué n'a pas été fait ni au niveau des pays de l'OCDE, ni au niveau des grands pays émergents. Non, mais
on est le pays des poids et mesures, donc là on va pouvoir commencer à mesurer la dette et combien ça pèse et combien ça coûte, quoi.
Alors, on peut le faire. Ce qui serait intéressant, ce serait que les modes de calcul soient harmonisés. Parce que je vous parlais tout à l'heure du coût social du carbone. Chacun le sien, finalement. Le coût américain, il existe aussi. Il est 50% moins élevé que le coût français. Donc, il faudrait qu'il y ait effectivement un poids et mesure sur le coût social du carbone au niveau mondial pour que chacun... calcule ses effets de la même façon et qu'on arrive à pouvoir comparer ce qui, pour l'instant, est incomparable.
Donc, il n'y a pas d'indicateur ?
Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'indicateur normalisé. Là, pour l'instant, je vous ai parlé d'un exercice de style, en quelque sorte. Okay. Il faudrait effectivement que ce soit harmonisé au niveau international pour que ça puisse être intégré, par exemple, dans les politiques que les États doivent rendre à l'ONU pas plus tard qu'en février 2025, pour qu'on ait une meilleure appréciation, finalement, d'où ils en sont et de ce vers quoi ils vont.
Ok, bah, Valérie, on va avoir une voix de la City bientôt, puisque c'est la chanteuse Alanis Charal qui va prendre la parole à ta suite. On te remercie beaucoup, et puis à bientôt dans les arènes de l'écologie. Tes informations seront toujours passionnantes.
Please, Papa, don't want me. Anywhere I happen to.
Eh bien, vous êtes toujours dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors maintenant, on va donner la parole à Muriel Martin-Dupré, qui est la coprésidente de France Nature Environnement Île-de-France. Et on va lui demander quel a été le grand moment ou le moment clé de l'année pour cette grande association qui a aussi à peu près une cinquantaine d'années. France Nature Environnement fédère une myriade d'associations environnementales, écologiques. C'est vraiment une association de référence, si on peut dire. Donc, s'il fallait en connaître qu'une, ce serait peut-être la vôtre, votre association. Ben écoutez, Muriel, bonjour. On vous laisse la parole. Présentez-vous, dites-nous ce qu'a été 2024 pour vous.
Alors, 2024, c'était le point d'aboutissement en région Île-de-France de tout un travail de préparation qui a été lancé essentiellement par la région, mais aussi par l'État, pour arriver à valider le schéma d'aménagement qui prévoit, qui planifie, je dirais, le développement de l'Île-de-France jusqu'à l'horizon 2040.
D'accord. Alors, le précédent, c'était celui sous Rocard, je me souviens avoir fait quelques tartines sur le sujet, qui prévoyait météores, éoles et autres grandes structures, infrastructures de transport. Mais bon, ça ne me rajeunit pas, donc voilà, c'était il y a déjà 30 ans. Et donc là,
horizon 2040, et comme le contexte a vraiment changé, on n'en est plus à l'hyper-développement, on en est à essayer de lutter contre une artificialisation galopante des sols qui pose de vrais problèmes pour la survie des espaces naturels, des espaces agricoles et des espaces forestiers essentiellement. Donc cet exercice était cadré par la loi climat et résilience, hein, qui avait fixé pour toutes les régions un cap de moins 50% de sols artificialisés à l'horizon 2031. Mais pour l'Île-de-France, pour la Corse et pour l'Outre-mer, on pouvait aménager. Alors, pour des raisons différentes, parce que vous voyez bien que la Corse, c'est protégé, bien sûr, les rivages, mais bon, c'est pas l'hyper-développement. Hein. Mais pour l'Île-de-France, l'objectif que la région a voté, c'est moins 23% de sols artificialisés en 2031, moins 30% entre 2031 et 2041, pour atteindre moins 43% à l'horizon 2050.
Donc, comprenne bien. Quand vous dites moins 23%, on ne va pas casser les maisons, c'est grosso modo, on va réduire l'extension de l'artificialisation.
Voilà, par rapport à la période qui vient de s'achever. D'accord. Et qui a vraiment favorisé l'étalement urbain.
On va ralentir
l'artificialisation. Pour arriver à un zéro artificialisation nette, puisque c'est le mot clé, le ZAN. Alors ça, l'objectif, c'est 2050.
D'accord.
Mais bon, donc on a encore du temps. Et donc, nous, bien sûr, association, on était pour une ambition maximum, c'est-à-dire être plus restrictif et mieux encadrer le développement urbain. Mais la région, bon, elle a fixé et elle a voté ses priorités. Et donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est lancer une étude. Et c'est ça ce sur quoi je voudrais insister, en lien avec la Fondation Abbé Pierre et puis la Fondation pour la Nature et l'Homme, une étude pour essayer de voir comment on peut concilier les besoins de logement, parce que vous voyez bien qu'on a besoin de loger, le mal-logement en Île-de-France, c'est vraiment un fléau, et on a besoin de développer du logement social. Comment on peut concilier ce besoin de logement avec la préservation des enjeux que je vous ai indiqués tout à l'heure, arrêter d'artificialiser, protéger les espaces de nature, des terres agricoles, etc. Et donc, on lance une grande étude, je dirais, pour réduire le mal logement en Île-de-France en réduisant l'artificialisation des sols. Et on dit, c'est possible, on peut produire autrement des logements, on peut rénover des logements, on peut réhabiliter, on peut intensifier les usages, on peut intégrer le besoin de logement social, puisque, comme vous le savez, les besoins ont été identifiés à hauteur de 70 000 logements par an. Donc 70 000 logements par an pour ce schéma qui a un horizon 2040, ça fait des espaces à consommer si on continue à faire du pavillonnaire et du grand n'importe quoi. Donc nous on dit...
Mais est-ce qu'il n'y a pas des espaces à entre guillemets, à recycler ?
Ben bien sûr, c'est ça. Il y a des espaces de friche. Je ne vous cache pas qu'un certain nombre de grandes surfaces... Vous voyez bien la crise qu'il y a des grandes surfaces. Elles peuvent être... C'est des espaces qui sont déjà urbanisés. Donc on peut changer dans les documents d'urbanisme leur vocation et créer des espaces de logement.
L'affectation des sols. Donc,
voilà, voilà. En respectant l'occupation qui est existante.
Et donc grosso modo, construire des logements sur d'anciens centres commerciaux qui vont aujourd'hui
sur des espaces... qu'on va réhabiliter, des logements qu'on va réhabiliter ou qu'on va rénover. Et donc, on peut produire autrement sans artificialiser davantage. Et nous, avec la Fondation Abbé Pierre et avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec un groupe d'experts, de collectivités qui ont déjà essayé de prendre des initiatives vertueuses, on va essayer de démontrer que c'est possible et que... ces objectifs qui nous semblent insuffisants pour cadrer le développement urbain d'une région qui explose. Alors, vous me direz, quand on est aux confins de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne ou au bout du Val d'Oise, là, il y a de la nature, etc. Oui, mais cette deuxième couronne, elle commence à être grignotée, et pas que par les projets, par les data centers et par les zones logistiques.
La logistique, le numérique qui n'est pas si virtuel que ça.
Voilà. Vous voyez bien dans cette période de Noël où les Amazon livrent les cadeaux de Noël que vous allez mettre sous le sapin pour vos enfants, et ben s'il faut s'estocker où, ben c'est stocké en Seine-et-Marne, c'est stocké dans le Val d'Oise, et ça fait des norias de camionnettes qui viennent, etc. Donc
grosso modo, ce que vous nous dites, c'est que les nouveaux comportements commerciaux d'achat et autres ont un impact
sur l'artificialisation,
sur la réalité, sur ce qui est le plus concret de l'écologie, à savoir le sol.
Tout à fait.
Donc, et grosso modo, si je comprends bien, c'est que vous êtes en train de nous dire que l'artificialisation des sols continue à être à se développer à un rythme plus important que l'augmentation démographique francilienne. Parce que, bon, je regardais l'autre fois, quand on parlait des émissions de gaz à effet de serre, l'Île-de-France croît de mémoire à peu près de 100 000 habitants par an. Donc, est toujours en expansion démographique, mais grosso modo, donc ça fait, il faudrait faire des calculs un peu pointus, mais grosso modo, on artificialise plus vite qu'on a d'accroissement démographique. Donc, c'est pas normal.
Et les associations que je vous indiquais, la Fondation Abbé Pierre et la Fondation pour la Nature et l'Homme, ont produit un rapport en 2024, un rapport au niveau national, et c'est les conclusions de ce rapport qu'on veut décliner en Île-de-France, en disant il n'y a pas de...
Vous êtes en train de nous dire qu'en 2025, vous allez faire une grande campagne sur le sujet.
On va faire tout un travail avec des experts, avec des élus locaux, pour repérer des lieux où des expérimentations peuvent avoir lieu. Et dans le cadre de la déclinaison de ce grand schéma d'aménagement, on va dire, c'est possible, voilà, on peut expérimenter, il y a des crédits de l'État, il y a des crédits de la région,
c'est très intéressant tout ça. Je crois qu'on va être obligé de vous faire revenir parce qu'on n'a pas pu épuiser le sujet qui est très concret, parce que là on est en train de me faire signe en régie que régie d'ailleurs qu'on remercie, Armand Aguri, merci beaucoup pour ton intervention et ton efficacité. L'émission se termine comme chaque semaine, vous allez me dire, mais bon, j'ai du mal à m'habituer à ça. Et on va souhaiter comment dire, une bonne semaine à tout le monde. Et puis, bien, la prochaine, ça va être Noël. Hein, on va passer Noël ensemble.
Hein. Oui, bien sûr. Et le bilan aussi qu'il faut faire pour 2024.
Eh bien, on continuera le bilan de 2024.
Hein. Plus tes voeux pour 2025.
Ah oui, ça va faire beaucoup de choses, tout ça. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à Noël. On ne vous dit pas encore à l'année prochaine, mais ça ne va pas tarder.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.